Il y a le ski de randonnée et puis il y a le ski alpin sur piste. Et là, on ne remonte pas les pentes en peau de phoque. On prend un télésiège ou un tire-fesse en station. Et des stations de ski qui ferment, eh bien, il y en a régulièrement. On les appelle des stations fantômes. En France, elles seraient 186, selon un dernier recensement réalisé il y a 2 ans. Ça représente tout de même quasiment un tiers de tous les domaines skiables construits sur le territoire français. Chaque hiver, 3 sites de moyenne montagne ferment définitivement leurs pistes faute de neige et aussi faute souvent d'une bonne gestion économique. 3 par an, c'est une moyenne. Alors faut-il démonter ces installations obsolètes qui ont un impact écologique ou bien faut-il en revanche les conserver au motif qu'elles incarneraient une mémoire patrimoniale du ski ? Clémentine Métainier s'est intéressée à ce phénomène qui ne fera que s'amplifier dans les prochaines décennies. Son reportage débute au sud de Grenoble.
Alors, où sommes-nous ?
Eh bien, nous voici au cœur de la Matésine, à Saint-Honoré-1500, à une station de ski abandonnée, qui ne sert plus, dont les remontées mécaniques ont été démontées, dont il reste là, et nous sommes devant, des immeubles qui n'ont jamais été finis, en fait, et qui sont tous tagués maintenant. C'est plus récent, ça, mais voilà, là, il y en a un devant nous qui fait 1, 2, 3, 4 étages et le rez-de-chaussée. Il n'y a jamais eu de fenêtre de posée, il y a des trous vides, il y a des balcons en barrière, il n'y a pas de toit. Et derrière nous, on en a un, il y a juste les fondations, le premier étage, et un plateau plein de ferraille et qui surplombe une superbe vue que vous verrez pas parce que d'abord on est à la radio, ensuite il y a un brouillard monstrueux aujourd'hui.
Alors c'est vrai qu'on parle de stations fantômes concernant ces stations. Là, il y a un côté un peu fantomatique, on ne voit rien. Mais vraiment un brouillard à couper au couteau. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ?
Vincent Nérin. Donc, je suis chargé de mission à Montaigne-Huile-d'Arnez, qui est une association de protection de l'environnement, fondée par des alpinistes au départ, et qui regroupe en gros tous les gens qui sont amoureux de la montagne. On est une ONG internationale. Il y a d'ailleurs une section en Belgique. Et donc, moi, je travaille à la section française pour laquelle je m'occupe d'aménagement du territoire, entre autres.
On a décidé de venir ensemble ici parce que c'est un sujet qui vous concerne, les stations de ski abandonnées. Vous étiez déjà venu ici où nous sommes là actuellement ?
Non seulement j'étais déjà venu, mais j'étais déjà venu quand la station tournait encore. Donc, j'ai eu l'occasion, c'était un peu la fin, mais j'ai eu l'occasion d'y skier en partant de l'autre côté de la montagne et qui fonctionnait toujours avec quelques difficultés, mais elle fonctionne toujours et elle est sur le bon versant, donc le versant enneigé. J'ai effectivement eu l'occasion d'emprunter la piste qui descendait du col qui fait la bascule entre les deux versants pour arriver jusqu'ici. C'était d'ailleurs assez extraordinaire parce que, c'est un versant sans neige, donc il y avait de la neige damée qui se transformait en glace sur une sorte de route pastorale qui permettait d'arriver jusqu'à ces bâtiments, et on reprenait le télésiège, qui nous remontait au col pour repasser de l'autre côté. Donc c'est vrai que c'était assez bizarre déjà à l'époque quand ça tournait. Alors bon, que maintenant, et quand ça tournait moyennement, faut être bien clair, on était tout seul sur le télésiège.
Mais ça veut dire que ça n'était pas un bon choix de faire une station de ski ici?
En fait, ce qui s'est passé, c'est que le plateau Matésin, c'est un plateau dans lequel s'est développée la mine, la chimie d'anthracite, depuis des décennies, depuis des siècles d'ailleurs, parce qu'à la fin du 19e, les mines étaient exploitées. Ça a d'ailleurs donné l'occasion à la construction d'une ligne de train qui part toujours de Saint-Georges-de-Commiers et qui arrivait à la Mure. Et c'était une des premières, si ce n'est la première ligne électrifiée au monde pour transporter le charbon. Voilà, fin des années 70, début des années 80, le charbon, comme partout ailleurs en France, s'est cassé la gueule. Et il a fallu se reconvertir, quoi. Et comme toujours, ou souvent en montagne, la montagne, l'économie, c'est le ski alpin. Donc on prend les sous de la reconversion et on fait une station de ski pour faire du ski alpin, vu qu'on sait faire que ça en économie en montagne. Sauf que c'était pas la bonne altitude, c'était pas la bonne exposition, c'était pas le bon endroit et c'était pas le territoire qui s'y prêtait. Et donc au final, après moult vicissitudes, on se retrouve devant ces bâtiments abandonnés et avec une station qui a tourné quelques années, mais sans vraiment prendre son envol, parce que c'était pas le bon projet pour ce territoire-là.
Saint-Honoré 1500, c'est un cas vraiment particulier. C'est peut-être la station fantôme, la station de ski fermée phare, la star, si vous voulez. Pourquoi ? Parce qu'elle a une allure fantomatique au milieu de la montagne. C'est peut-être la seule qui est dans cette situation comme ça.
Pierre-Alexandre Métral les connaît toutes. se doctorant en géographie à l'université de Grenoble-Alpes, s'est passionné pour les trajectoires de reconversion post-touristique des stations de ski fermées françaises, consacrant même une thèse à ce sujet. Il décide alors de recenser ces centres de ski fermés, comme il préfère les appeler. Il s'agit de sites qui ont vu la mise à l'arrêt de leur dernière remontée mécanique ayant vocation à transporter des skieurs. En 2021, les stations fermées françaises se dénombraient à 186 sur un total de 600 sites touristiques de ski.
Les premières fermetures apparaissent dans les années 50-60. Première fermeture, c'est 1951 avec le téléphérique des glaciers. C'est d'ailleurs la première station qui avait été construite en France pour c'est un projet prototype pour grimper au sommet de l'aiguille du Midi. Donc construit en 1924 et qui servira à acheminer les bobsleighs pour les Jeux Olympiques, les premiers Jeux Olympiques d'hiver en 1924. Donc première fermeture dans les années 50-60. À partir de 1970, et toutes les années, on aura au moins une fermeture de station de ski. C'est pas un chiffre qui va augmenter exponentiellement avec les années. Hein. C'est assez stable, on est autour de 2-3 stations. Il n'y a jamais d'année où il va y avoir des pics. Par contre, ce qu'on observe, c'est que donc c'est un phénomène ancien qui a toujours existé, mais qui concernait surtout des micro-stations pendant des années, une ou deux remontées mécaniques. C'est pas des Courchevel, hein, c'est pas d'hébergement, pas de commerce, c'est juste un parking et une remontée mécanique. Par contre, à partir de peu près de 2000 et jusqu'à aujourd'hui, on voit qu'il y a d'autres stations un peu plus grandes, des territoires qui sont pour le coup spécialisés dans le tourisme. Et on compte sur la dernière décennie une dizaine de stations un peu plus importantes qui ont fermé.
Est-ce que vous vous intéressez aux causes de ces fermetures ?
Alors c'est difficile de donner un facteur d'explication à la fermeture des stations. Moi, ce que je dis, c'est que ces stations, elles ferment pour des motifs économiques. C'est comme pour une entreprise, quand elle n'est plus rentable, quand elle ne génère plus assez de chiffre d'affaires et qu'elle devient déficitaire, elle se pose la question de sa continuité. Et voilà, c'est un choix de raison, mais il faut les fermer, ces stations. Donc, pour des problèmes économiques. Et tout ceci, c'est influencé par des facteurs de vulnérabilité qui sont pas uniques, qui sont multiples, qui s'entrecroisent, qui s'entrecoupent, qui se mixent et qui font que des stations ont fermé. On peut citer ici le manque de neige lié au réchauffement climatique, la concurrence entre les stations, l'isolement des domaines skiables aussi, hein, des projets qui étaient mal ficelés, trop loin dans la montagne, trop haut ou trop bas dans les montagnes. Puis il y a des facteurs un peu plus conjoncturels qui sont peut-être un attrait un peu plus réduit que dans les années 60 pour le ski. Hein, le ski c'était le sport numéro 1 à cette période, ça l'est malheureusement plus aujourd'hui. Tous ces petits facteurs vont s'agglomérer et font faire qu'une station peut dépérir à un moment donné.
On peut déjà continuer à voir le site parce qu'il y en a encore derrière des bâtiments qu'on ne voit pas qui sont abandonnés.
On a le droit d'aller dans les bâtiments, vous croyez ? Le droit, on ne sait pas.
On
va voir. Alors pour décrire un peu, effectivement, ce ne sont que des fondations hein, d'un énorme bâtiment. Et on a des tags de partout. On dit qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû venir ici. Et c'est impressionnant.
Il y a encore des fers à béton qui traînent partout.
Mais donc ici, c'était voué à être quoi des hôtels, un hôtel ?
Des immeubles d'habitation pour les louer.
Comme il y a à côté d'ailleurs déjà. Donc c'est un dédale effectivement de couloirs complètement dessinés, graphés, avec des graffitis partout.
Avec le brouillard, on rate la vue, mais on a une ambiance vraiment particulière.
Cette appellation de station fantôme, largement usitée dans les médias, est controversée, car pour ceux qui s'y intéressent, elle cache une diversité d'histoires et de situations.
Déjà, cette notion de station fantôme, elle est assez drôle. Moi, je l'utilise pas, je la bannis même. À la base, je pense, mais je suis pas sûr, mais je pense que ça vient des stations de métro qui ont été abandonnées ou qui ne sont inutilisées. Et même si on remonte un peu plus loin, je pense que l'expression est née en Allemagne pendant la guerre froide, lorsque à Berlin on construisait le mur. Il y avait des stations de métro entre Berlin-Est et Berlin-Ouest qui étaient inutilisées, et c'est de là qu'est née l'expression. On l'utilise maintenant à la montagne pour parler de ces stations fantômes, et ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire qu'il y a des bâtiments et des remontées mécaniques qui hantent la montagne, presque terrifiantes, etc. Or, moi, je trouve que voilà, c'est difficile de parler d'endroits morts dans un espace de montagne. En fait, le cas de Saint-Honoré 1500 est super pour illustrer ça. Il y a toujours des habitants dans ces stations. Il y a toujours souvent des commerçants qui fonctionnent, qui ont connu les périodes phares du ski et aussi l'après-ski. Ça reste touristique. Hein. Pour un tourisme de proximité sur les quatre saisons, on peut toujours monter l'été, profiter des montagnes. Il y a toujours plein d'activités à faire, qu'elles soient organisées ou auto-organisées, hein, comme de la randonnée, comme du ski de rando. Donc ça reste des espaces encore attractifs. Hein. Tout n'est pas mort. Et puis, ça concentre aussi beaucoup d'intérêt à l'échelle locale. Il y a plein de projets qui entourent ces stations, enfin ces sites de stations fermées pour les recréer de l'activité sur ces territoires. Donc, tout n'est pas fini. L'aspect fantomatique, c'est un préjugé.
Oui, bonjour, c'est Clémentine.
Oui, bonjour, c'est le premier.
Merci.
Christophe Stagnetto est photographe indépendant. Il vit dans la région depuis 20 ans et sur la station de Saint-Honoré 1500 depuis 15 ans. Il fait partie des 60 personnes à y habiter à l'année.
Christophe, bonjour.
Bonjour.
Je ne sais pas si je vous sers la main, elle est très froide, parce qu'il fait froid. Donc, enchanté.
Enchanté.
Est-ce qu'on peut rentrer chez vous?
Oui.
Merci.
Bah, moi, quand j'entends ça, je dis souvent que je suis un fantôme, du coup, puisqu'on y vit, donc ça veut dire qu'on fait partie des fantômes. Et non, on est bien réel. On fait abstraction un petit peu de cette ruine qui est là à côté. Moi, de ma vue, de mon balcon, de mes fenêtres, je peux pas la voir. J'ai juste une vue fantastique sur les massifs environnants. Hein. Donc on fait abstraction de ça, et puis on vit ici comme dans n'importe quel hameau de montagne.
Alors vous faites abstraction, mais vous avez aussi un petit peu détourné à travers votre regard de photographe. En tout cas, vous souhaitez, alors je ne sais pas, est-ce que vous souhaitez raconter une autre histoire de ce lieu ou vous l'avez investi de votre regard? De quelle manière? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu?
Ouais, c'est vrai que je dis que j'en fais abstraction, mais je m'en sers autant que ce que j'en fais abstraction. C'est-à-dire que quand j'ai pas envie de le voir, je le vois pas. Mais quand je veux l'utiliser, je l'utilise surtout au début où je suis arrivé là, où c'était tout vierge, sans tag, et où on pouvait à l'intérieur reconstituer des décors de pièces. Je m'en servais un petit peu comme d'un studio photo avec de la lumière naturelle. Donc je m'en suis servi pour ça, mais je suis pas le seul. C'est un bâtiment qui, vraiment, culturellement, les gens se le sont approprié. Y a Salomon qui est venu tourner un film de ski à l'intérieur, dans le cadre d'un petit clip, petite série vidéo sur les stations abandonnées dans le monde. Pardon. Y a une troupe de danse qui est venue tourner un clip, un groupe de hip-hop qui est venu tourner un clip récemment, pas mal de graffeurs qui ont investi les lieux et qui ont fait des fresques magnifiques. C'est limite devenu une galerie d'art. Forcément, depuis qu'il n'y a plus la station, il y a moins d'activités, moins de possibilités de se croiser, de se rencontrer. Les gens qui travaillent à la journée, bah, une fois qu'ils rentrent le soir, ils sont chez eux. On n'a pas de lieu de rencontre. Mais c'est spécifique aussi à la commune. C'est une commune composée par 13 hameaux. Et l'église est dans un hameau. La mairie et l'école sont dans un autre hameau. Dans aucun des hameaux, il existe une place de village. Et dans aucun des hameaux, il y a un commerce. Donc on a un village sans lieu de vie, sans lieu de rencontre, sans commerce, sans rien. C'est un petit peu dommage. Et ça manque autant à la commune qu'à la station ici, enfin à l'ancienne station ici.
Sachant qu'il y a quand même beaucoup de passages, surtout l'été, je crois, parce que c'est un lieu assez touristique, où des marcheurs, vous voyez des gens venir ici profiter du paysage, en tout cas profiter de cette nature.
Énormément, le parking est plein assez régulièrement, que ce soit été comme hiver, mais pas que l'été. Hein. Mais l'été, c'est principalement pour la randonnée, la vue. Et puis l'hiver, c'est pareil, bah, c'est le ski de randonnée, c'est la raquette, c'est les gens qui viennent faire de la luge avec les enfants. Beaucoup de photographes aussi qui viennent ici pour l'animalier et puis pour le paysage en même temps. Mais on a une faune assez riche quand même dans le coin. Et c'est assez sympa d'aller se balader et de faire quelques mètres et puis de tomber nez à nez avec les chevreuils, les blaireaux, les renards.
Aux côtés des enjeux sociaux, économiques et touristiques posés par la fermeture des stations de ski, les enjeux écologiques des installations dites obsolètes. Décomposition des déchets plastiques, présence d'huile de moteur pouvant pénétrer les sols ou encore danger pour les oiseaux qui risquent de percuter des câbles. Le démontage des remontées mécaniques abandonnées n'est pas un sujet nouveau pour l'association Mountain Wilderness qui travaille à démonter depuis une vingtaine d'années. Aujourd'hui, ils ont inscrit cette problématique dans une campagne internationale.
Il s'est trouvé qu'un matin, nous étions au local de Mountain Wilderness, ma collègue et moi, Carmen Garsmic, et nous avons reçu un coup de fil d'un de nos adhérents qui nous dit « J'ai fait une randonnée à ski de rando, donc avec ses peaux de phoque, en Vanoise, à la frontière italienne, ce week-end, et je suis tombé sur une station fantôme. » Pour le coup, effectivement, à 3000 mètres d'altitude, au col du Sommeiller, une station totalement abandonnée qui avait été construite dans les années 75, je crois, par les Italiens pour faire du ski d'été. Donc il y avait un accès côté italien, y compris routier, qui débouchait sur un restaurant, un hôtel, et des remontées mécaniques qui montaient à plus de 3000. Et avec le recul du glacier, tout s'est effondré, et tout a été abandonné. C'est resté comme ça des décennies, personne ne s'en rappelle trop. Et donc on est allé voir, effectivement. Et ça nous a vraiment surpris parce qu'on était dans la zone périphérique, à l'époque ça s'appelait comme ça, du parc national de la Vanoise. Et on s'est dit, mais s'il y en a un là, il y en a peut-être ailleurs. Donc on a lancé un recensement d'abord sur les espaces protégés, gérés, les parcs naturels régionaux, les réserves naturelles, les parcs nationaux, l'espace Mont-Blanc également. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y en avait des centaines et des centaines. C'était super impressionnant. Touristique bien sûr, mais aussi industriel, militaire, agricole. Et donc on a lancé cette campagne, dont Carmen a la responsabilité depuis 20 ans maintenant d'ailleurs, pour recenser, sensibiliser, démonter dans un premier temps, plus nettoyer les abords que vraiment démonter. Mais maintenant, ça fait quelques années maintenant, on est passé à vraiment la phase du démontage, y compris s'il le faut, en utilisant des hélicoptères, etc. En partenariat systématiquement, hein, parce que c'est comme ça que ça marche, il faut sensibiliser le territoire, les autres acteurs. Et puis au final, montrer que c'était possible de faire. Du coup, ça a amené certaines stations à démonter des trucs qu'ils avaient gardés comme ça, tranquillement, en se disant que tout le monde allait l'oublier. Et on avait parfois des bonnes surprises de ce point de vue-là. Et pour rendre à la nature ces espaces, toujours systématiquement en prenant en compte le fait qu'il puisse y avoir du patrimoine dans certaines de ces constructions. On a parfois tendance à dire que tout ce que l'homme a construit, ça fait patrimoine. C'est pas totalement vrai quand même, il y a des trucs qu'il faut enlever. Garder l'histoire et la mémoire toujours, garder l'objet, pas systématiquement. Et si on le garde, alors dans ces cas-là, il faut vraiment réfléchir à la manière dont on le met en valeur, dont il est symbolique du territoire, dont on raconte, dont il fait partie de cette histoire et qu'il faut conserver.
C'est donc une victoire pour l'association quand en décembre 2016, la loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, la loi Montagne 2, introduit dans son article 19 des dispositions rendant obligatoire le démontage des remontées mécaniques abandonnées en fin d'exploitation à partir de cette date. Le syndicat professionnel national des entreprises de remontées mécaniques, Domaine Skiable de France, inscrit alors dans ses éco-engagements une stratégie d'élimination des remontées mécaniques abandonnées à partir de l'été 2021. Objectif, démonter 3 installations obsolètes chaque année.
Bonjour.
C'est moi.
Est-ce que c'est bien là?
Oui, c'est bien là. Simplement, d'habitude, les gens appuient là, en fait.
Philippe Reynaud est le directeur des Domaines Skiables de France.
Alors nous, sur la question du démontage des installations obsolètes, et j'insiste sur le fait que c'est pas parce qu'il y a des installations obsolètes, il y en a une quarantaine en fait aujourd'hui en France, enfin une quarantaine de sites, et il doit y avoir quelque chose comme 70 téléskis, c'est pour la quasi-totalité des téléskis, qui sont abandonnés en montagne et qu'il faut démonter. Et en 2016, la loi montagne numéro 2, dite numéro 2, a imposé que toutes les nouvelles remontées mécaniques, lorsqu'elles viendraient à s'arrêter en fait, devraient être à leur tour démontés. C'est-à-dire qu'auparavant, il n'y avait pas d'obligation de le faire, et ça se faisait un peu sur l'initiative associative ou bénévole, hein, comme c'est le cas de ce qu'on fait nous, comme c'est le cas de ce que fait Mountain Wilderness aussi depuis longtemps. Mais désormais, pour les remontées mécaniques qui sont construites à partir de 2016, si elles venaient à s'arrêter, il y aurait une obligation juridique pour la commune de les démanteler.
Ça ne se fait que de manière bénévole ? Ou à un moment donné, on peut chiffrer à combien ça s'élève d'aller démanteler, c'est quand même pas mal de travail.
Alors les remontées mécaniques, elles appartiennent aux communes, enfin aux collectivités d'une façon générale, souvent la commune. Et lorsque la commune ne souhaite plus exploiter son téléski, eh bien, en général, elle le démonte elle-même. Si on retrouve encore aujourd'hui des téléskis, et donc encore une fois, il y en a à peu près 70 en France, qui n'ont pas été démontés, alors même que la commune ne les exploite plus, c'est parce que le chantier de démontage, ben, il peut coûter entre 5 000, 10 000 euros, parfois un peu plus, et que certaines communes n'en ont pas les moyens, ou ne s'en donnent pas les moyens. Et dans, c'est là que l'initiative bénévole, telle que Domaine Scap de France la conduit, a un sens. C'est que ça permet d'apporter aussi une réponse à l'endroit où la commune n'a pas les moyens de démonter par elle-même.
Moi, je me demande dans quelle mesure aussi ces démontages vont de pair avec une réflexion sur la transition de la montagne. Si on considère qu'effectivement, ces équipements faisaient partie d'une histoire patrimoniale et d'une histoire du ski, auquel effectivement des villages sont très attachés. Comment vous voyez ça ?
On parle ici de villages de montagne qui n'ont pas été si marqués que ça par l'économie du ski. Il y avait 1, 2, 3 téléskis et la cessation de fonctionnement de ces téléskis n'a pas radicalement transformé le village parce que c'est des villages qui ont leurs propres atouts et qui n'étaient pas devenus hyper spécialisés dans le ski. Donc c'est plus une question d'identité, ça touche à l'identité du village et à sa continuité, mais il n'y a pas eu de traumatisme particulier autour de la cessation de fonctionnement de ces quelques appareils qui étaient isolés, pas toujours bien situés et pas toujours exploités dans des conditions économiques à terme viables. Voilà.
Mais du coup, qu'en est-il des grandes stations de ski ? Si demain, voilà, ce recul de la neige auquel vous êtes peut-être encore plus confronté que n'importe qui, quelles sont les réflexions engagées là-dessus ?
Alors, le changement climatique, nous, on est aux premières loges. Hein, donc, on voit bien que décennie après décennie, il y a une érosion du manteau neigeux qui n'est pas toujours évidente à voir d'une saison sur l'autre parce qu'il y a des saisons bien enneigées, des saisons peu enneigées. Mais aujourd'hui, plus personne ne conteste l'existence du changement climatique. Et effectivement, il constitue une menace sur l'économie des stations de montagne à terme, j'ai envie de dire. Alors, la question, c'est aussi quel est ce terme ? Sur des horizons temporels de type 2080-2100, qui sont des horizons prospectifs, la menace est parfaitement réelle. Même si on sait qu'on continuera à skier en France à ces horizons de temps, on pourrait ne pas continuer à skier partout dans ces horizons de temps si on ne réussit pas la décarbonation de nos processus, si les accords de Paris qui ont été signés à la COP21 ne parviennent pas à être atteints. Et si voilà, on ne limite pas la hausse des températures. Donc cette menace pour nous, elle est tout à fait réelle. On a donc deux types de mesures, des mesures d'adaptation pour s'adapter à un aléa d'enneigement dont on nous dit qu'il sera plus fort dans le futur. C'est le damage des pistes, c'est le profilage des pistes en particulier. On fait aussi des simulations assez précises aujourd'hui de ce que sera l'enneigement dans 20 ou dans 30 ans. Ce sont des logiciels qui nous permettent de décider de façon plus pertinente quels sont les investissements qu'il faut faire et où est-ce qu'il faut les faire sur le domaine skiable. Puisqu'on est en fait perpétuellement en train de réaménager le domaine skiable, en général à l'intérieur de l'enveloppe existante. On remplace plusieurs appareils par un seul, on optimise, on remplace des appareils qui sont peu performants énergétiquement par des appareils plus performants. Et puis on s'adapte en permanence aux attentes de la clientèle. Et tous ces investissements sont de nature à nous garantir une exploitation le plus souvent au moins jusqu'en 2050 et en général au-delà, sauf à certains endroits où là les échéances sont plus rapprochées. Et je pense tout particulièrement à ceux qui vont être touchés de plein fouet par l'augmentation des prix de l'électricité, puisque c'est la grosse nouveauté dans notre modèle économique, on a une électricité qui devient très chère et qui va bousculer le modèle économique d'un certain nombre de domaines skiables.
Selon l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, 80 sites de moyenne montagne dans les Alpes françaises devront fermer d'ici à 2050.